frère, attendez. Mon frère Sylvain, il dit t'as de la pression un matin. En rapport avec ce que Mathieu vient de dire. Mais oui, on a toujours un certain sens de responsabilité face à la parole de Dieu. Donc, ce matin, on va voir ensemble c'est qui le vrai disciple de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais face à vous-même, est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que, selon la parole de Dieu, je suis une personne qui peut s'appeler un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ? Et j'ai regardé dans le dictionnaire pour avoir cette définition-là du mot « qu'est-ce que c'est un disciple? » Et on me dit que c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et là, ceux qui ont suivi Jésus, évidemment, son enseignement pendant sa vie terrestre, c'étaient des disciples. Et en même temps, les 12 hommes qui ont été choisis par Jésus pour fonder l'Église étaient aussi les disciples de Jésus-Christ. Une autre définition, c'est une personne qui adhère à la manière d'être d'un maître. Autrement dit, il veut être la copie conforme de son maître. Il veut le suivre. Et une des particularités, je dois dire, de l'Évangile de Luc, c'est que Jésus, outre les 12 apôtres, il y en a eu 70 autres qui ont suivi l'enseignement de Jésus et qu'on pouvait appeler des disciples. Matin, on regarde les chapitres 9 à 19. Inquiétez-vous pas, je ne ferai pas un exposé verset par verset de ces 10 chapitres-là, 10, 11 chapitres-là, mais on va se promener un peu dans certains passages. Et ces chapitres-là, chapitres 9 à 19, nous dépeignent la marche de Jésus et de ses disciples qui s'en vont vers Jérusalem. Et c'est pendant ce voyage-là que Jésus va enseigner et il va donner les bases nécessaires pour la vie d'un disciple. Mais au-delà de la description complète du voyage vers Jérusalem, c'est pas ça ben qui nous intéresse. Luc, il va faire le récit ici de la marche spirituelle d'un vrai disciple. Et cette marche-là vers Jérusalem a une portée que j'appelle symbolique. Le parcours de Jésus et de ses disciples reproduit la marche chrétienne. La façon dont nous devons marcher, avec ses difficultés, avec ses aspirations. Et Jésus, lui, nous donne, à travers ces passages, des exemples. Cette marche qui nous amène vers Jérusalem est en quelque sorte notre marche à nous, frères et sœurs, vers la Jérusalem céleste. Demandons au Seigneur de nous éclaircir un peu l'esprit et d'ouvrir notre cœur à cet enseignement qu'il veut nous donner. Oui, Seigneur, quoi d'autre que de dire aide-nous, Seigneur, à bien saisir la portée de ces enseignements que tu as donnés à tes apôtres, tes disciples, et que nous, malgré la difficulté ou les difficultés, avons besoin de comprendre et de suivre. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Suivre Jésus, c'est devenir son disciple. Est-ce qu'on peut dire un matin qu'on suit Jésus? Ah, je vais à l'église. Ah, je viens aux réunions de prière le mercredi soir. Pas juste ça. Ce matin, on va voir 6 caractéristiques, okay, rapidement, que chaque chrétien, que chaque disciple de Jésus-Christ devrait posséder. Et la première de ces caractéristiques-là, c'est que le disciple doit être prêt au rejet. Ah! Aimez-vous ça, être rejeté? Il n'y a personne qui aime ça, être rejeté. Pourtant, dans Luc, chapitre 9, versets 52 à 56, on peut voir un rejet. Et c'est une des premières difficultés que rencontre Jésus et ses disciples. À partir du verset 52, on peut lire Luc 9, 52. « Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. » Et verset 53, « Mais on ne le reçut pas, on l'a rejeté, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Et on sait qu'il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Wow, tu parles d'une attitude. Verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. C'est facile à comprendre, compte tenu, comme je l'ai dit, il y avait des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Et là, les disciples sont confrontés au rejet. Ils se font rejeter. Et je dois vous dire ce matin que de la même manière, le disciple de Jésus aujourd'hui sera rejeté du monde. Attendez-vous pas d'être accueillis. Attendons-nous pas d'être comme sur un plateau d'argent. Non! On va y rejeter. Par contre, il y a une chose ici qu'il faut souligner, c'est que Jésus nous rappelle qu'il ne faut pas réagir face au rejet comme les disciples l'ont fait. Hein? Il était en colère à cause du rejet. C'était une colère que je peux qualifier de meurtrière, hein, que le feu descende sur eux autres et les consume. Et Jésus les a repris. Il n'était pas là. Un disciple n'est pas là pour juger, mais pour annoncer le salut. C'est ça notre tâche. Oui, on va être rejeté. Il ne faut pas juger. Il faut continuer à parler de l'Évangile. Vous savez, afficher notre christianisme va nous amener à être rejetés du monde. Si tu veux passer partout comme étant une personne correcte, sans problème, dadi, dada, questionne-toi ça, si tu es un disciple. Je ne veux pas dire par là qu'on fait par exprès pour se faire haïr. Je dis par là que quand on annonce l'Évangile, on est rejeté. On doit continuer, malgré les obstacles, malgré les découragements, à annoncer l'Évangile, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a du rejet. Il ne faut pas avoir honte du Seigneur. Le rejet fait partie de la vie d'un disciple. Mais le disciple doit être l'occasion de manifester l'amour du Christ. En voilà une belle occasion. De manifester l'amour du Christ, même et surtout face à l'incompréhension et à l'hostilité des gens. C'est là qu'il faut démontrer l'amour. Et le meilleur exemple, c'est le rejet de Jésus lui-même qui l'a amené à sa mort. Hein? face à ces bourreaux, le Seigneur Jésus a fait preuve d'un amour qui nous dépasse. Imaginez-vous, dans Luc 23, verset 34, la première partie, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Wow! Je ne veux pas dire ce qui se passerait dans certaines de nos têtes, mais je ne pense pas que ça soit comme ça. Mais il faut demander au Seigneur cette force-là. En plus, il ne faut pas oublier que qui est notre maître? Notre maître, c'est le Seigneur Jésus, et il ne faut pas craindre ceux qui peuvent faire mourir le corps, hein? Les hommes. Hein, dans Luc 12, verset 4, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Celui que nous devons craindre, et je parle d'une crainte respectueuse, c'est Dieu. Deuxièmement, le disciple aime son prochain. Une des caractéristiques fondamentale du disciple, c'est l'amour du prochain. C'est cet amour-là qui fait grâce et qui fait aussi la différence entre la réaction des disciples de Jésus quand ils furent rejetés par les Samaritains. Luc 9, 55. Je vous encourage à matin parce qu'il faut que je déboule là. De prendre votre bulletin, puis il y a une place pour prendre des notes. Écrivez les versets, vous allez voir chez vous en écoutant le message sur notre site web. Donc, Luc 9, 55, Jésus, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il se tourne vers eux, il les a réprimandés. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'amour que Jésus manifeste doit être un exemple suprême. Celui qui veut suivre Jésus, hein, celui qui veut suivre Jésus, celui qui veut être son disciple, doit aimer comme Jésus a aimé. C'est toute une tâche. Vous savez, la parabole du bon samaritain, elle en dit beaucoup sur le sujet. Alors que tous ceux qui se croyaient des gens importants de la société de l'époque passe à côté de cet homme-là qui est à moitié mort, seul le Samaritain s'arrête pour l'aider. Pourtant, c'est celui qui avait beaucoup de raisons pour ne pas arrêter et passer tout droit. Rappelez-vous, c'est un Juif qui est là. Puis lui, c'est un Samaritain. Et l'attention que porte le Samaritain à cet homme-là qui est blessé, et aussi, il faut remarquer la générosité hein, dont il fait preuve. Bien ça, là, c'est des exemples pour nous, disciples. Le Seigneur a pris cette parabole-là et il l'a racontée à ses disciples pour qu'ils connaissent c'est quoi la volonté de Dieu. Un disciple doit aider son prochain, doit aider celui qui se trouve sur son chemin. Dans Luc 10, verset 35, le lendemain, hein, cet homme-là, ce Samaritain-là qui est arrêté pour aider cet homme-là qui était blessé à demi-mort, on pourrait dire, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Il a arrêté, il a pris soin, il l'a amené dans un endroit. Et le lendemain, il est encore après l'aider. Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, « Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Ça, c'est une prière, mes frères et sœurs, qu'on doit avoir pour nous ici rassemblés, notre Église. Hein? L'amour, faire abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, pas juste pour nous les chrétiens, mais pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Demandons au Seigneur de faire grandir l'amour entre nous et pour notre prochain. C'est sérieux. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on va reconnaître qu'on est vraiment des disciples de Jésus-Christ. Troisièmement, le disciple est une personne qui est humble. L'humilité est un autre trait de caractère du disciple de Jésus-Christ. Tout comme pour l'amour, c'est en Jésus que l'on trouve les meilleurs exemples. Hein, c'est l'humilité dont Jésus a fait preuve qu'il faut se revêtir. Le disciple, c'est-à-dire, ne doit pas chercher à se mettre en avant, mais plutôt à placer les autres en avant lui. À chercher l'intérêt de son prochain au lieu du sien. Luc 14, c'est-à-dire versets 10 et 11. On dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Et au verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Le disciple ne doit pas chercher à donner à qui pourra le lui rendre, hein, en sachant qu'il lui sera rendu à la résurrection des justes. Dans l'ancien temps, on disait, ça va être remis au centuple. Verset 14 de Luc 14. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. On appelle ça de la générosité désintéressée. L'humilité et la générosité soulignent l'amour de Jésus pour notre prochain. Et cette humilité-là, Jésus en parle aussi dans la parabole du pharisien et du publicain. Hein, le pharisien, il est là, il prie debout, se vante d'être mieux que le publicain. Alors que l'humilité du publicain le pousse à se reconnaître comme un pécheur et à craindre Dieu. Et là, Jésus dit que c'est lui le publicain qui fut justifié plutôt que l'autre, le pharisien. Et là, Jésus va nous expliquer que celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 18, verset 14. Jésus va dire ceci. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Celui, au contraire, qui... Il veut s'élever, veut paraître bien, veut être toujours le premier. Il va être abaissé. Parce que c'est Dieu qui élève ou qui abaisse. Celui qui manque d'humilité puis qui cherche à s'élever lui-même, c'est Dieu qui va l'abaisser. Le disciple doit par conséquent dire veiller à son humilité et à toujours mettre Dieu en avant. Notre chair ne veut pas. Mais il faut demander au Seigneur la force, la capacité de le faire. Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Quatrièmement, le disciple est totalement attaché à Jésus, et totalement détaché du monde. Hein? Certains obstacles à la marche du disciple sont des obstacles extérieurs. comme le rejet, là, on a parlé de rejet tantôt. Mais certains de ces obstacles-là aussi, et je dirais même la plupart, sont des obstacles intérieurs. Avec un engagement total vient le détachement total. Je veux m'engager totalement pour Jésus, pour le Seigneur, il faut que je me détache totalement du monde. L'attachement total à Dieu est possible que dans la mesure où on est totalement détaché de tout le reste du monde. Et ça veut dire quoi, ça? De tout ce qui est susceptible de nous retenir ou de nous freiner, hein, à freiner notre course dans notre marche chrétienne. Et le diable est expert à nous mettre du barrage dans les roues. Ce détachement-là peut se manifester de plusieurs façons. Et un des exemples que j'ai choisi, c'est le confort. Le confort, là, ça peut nous retenir. Hein, la vie du disciple n'est pas caractérisée par le confort. Excusez-moi, là. Et Jésus lui-même nous invite à considérer cela. Regardez Luc 9, verset 58. Hein? Regardez bien ce que Jésus répond. Il dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Ça veut dire qu'il y a une place à retourner le soir, ça. « Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. » Tu veux toujours être son témoin, son disciple. Qui dit engagement veut dire dépense. Et Jésus insiste sur le fait que nous devons réaliser ce qu'il en coûte de le suivre. Et plus le prix à payer est élevé, plus la récompense va être élevée. Et il nous faut prendre conscience des implications de la vie d'un vrai disciple, et tout cela afin de pouvoir nous engager réellement. Si tu t'engages dans l'armée, attends-toi pas d'être chez vous à toutes les soirs, assis dans ta lazy boy, à regarder tes programmes favoris. Non. Tu es engagé dans l'armée. Il ne s'agit pas d'un engagement pour un temps seulement, mais pour toute la vie. Ça commence à coûter cher, là. Jésus nous le dit clairement. Lui, il est la priorité. Et celui que nous devons préférer à tous, même à notre famille. Oups, on touche des cordes sensibles. Regardez bien dans Luc 12. On va regarder verset 52. Le Seigneur dit, car désormais, Luc 12, 52, car désormais, 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2 et 2 contre 3. Là, allez un petit peu plus en avant, à Luc 14, on va aller au verset 26. Luc 14, 26. Et regardez bien ça, là. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être ça, mon disciple. On doit être prêt à renoncer à tout ce qui nous retient, c'est-à-dire tout ce qu'on possède pour être son disciple. Maintenant, là, je vous vois venir, là. Si tu es plus attaché à ta maison qu'au Seigneur Jésus, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire d'aller vendre ta maison puis donner un profit à l'Église. Pas ça, pantoute, là. Ça veut dire seulement ceci. Si tu perds ta maison, si tu perds quelque chose qui a de la valeur pour toi, faut pas que ça te déchire comme perdre le Seigneur. Ça, tu ne peux pas le perdre, mais si tu es un vrai disciple, c'est pas ça qui va te retenir. Luc 14, 33. Alors, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Ce genre de détachement-là concerne particulièrement l'argent. C'est un des sujets les plus importants. Dans quelques semaines, on va en parler concernant l'argent et les offrandes encore, pour bien saisir le sens de cela. Et il n'y a pas seulement que l'argent, il y a les biens de ce monde. Jésus est encore une fois clair. Il n'est pas ombrageux. On ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Hein? C'est impossible. Celui qui est asservi par l'argent, là, qui est au service de l'argent, il ne peut pas suivre Jésus. Le chapitre 16 de Luc a deux paraboles certaines, l'autre c'est un enseignement de Jésus. Mais dans Luc 16, versets 1 à 13, Jésus parle de l'économe qui est infidèle. Un peu plus loin, les versets 14 et 17, Jésus il condamne l'avarice. Vous lirez le chapitre 16 cette semaine. Puis ensuite, versets 19 à 31, vous connaissez tous cette parabole-là de l'homme riche et Lazare. Hein? Il y en a un qui avait la langue pas mal à terre, puis il voyait son ami Lazare, qu'il avait connu dans sa vie terrestre, qui lui était dans le sein d'Abraham. Tous, sans exception, on doit se détacher de l'emprise que peut avoir l'argent sur nous. Et cela, pourquoi? Afin de nous mettre sous le joug léger du Seigneur Jésus. Hein? Même sans aucun doute, le passage le plus clair qui concerne la nécessité de tout laisser pour suivre le Christ, c'est la parabole du jeune homme riche dans Luc 18. Et ce jeune homme-là demande simplement, il demande comment hériter de la vie éternelle. Et là, Jésus lui répond simplement, « Vends tous tes biens et distribue tes gains aux pauvres avant de pouvoir me suivre. » Au verset 22 de Luc 18, Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. » Et c'est ce que je viens de dire. Puis ensuite de cela, viens et suis-moi. Au verset 24, Jésus s'aperçoit que ce jeune homme-là, il est devenu tout triste. Il a dû avoir beaucoup de biens. Et là, il réalise, pas lui, pas Seigneur Jésus, mais cet homme-là, ce jeune homme-là, qui est difficile. Et c'est ça que Jésus va dire, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne condamne pas la richesse, mais c'est quoi la dépendance que tu as à cette richesse? Et là, on se trouve ce qu'on appelle la condition, le comportement que le disciple doit adopter pour pouvoir suivre Jésus. Il doit se détacher de l'argent pour s'enraciner en Christ. Ce jeune homme riche-là, il avait du mal à échanger un trésor visible et actuel pour un trésor qui est invisible et qui vient du ciel. Les richesses terrestres passent avec le riche. Luc 12, 21 et la première partie du verset 22. Regardez bien ça. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et là, le Seigneur Jésus continue. Le riche, il est mouru. Et là, on l'ensevelit. Pour continuer dans la deuxième partie du verset B, le pauvre mort aussi, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les vraies richesses, c'est en Dieu. Et c'est ça que le disciple doit comprendre. Le disciple ne s'amasse pas des richesses qui pourrissent, hein, mais un trésor inépuisable dans les cieux. Je continue avec le verset 33 de Luc 12. « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. » Si tu as un problème avec l'argent, de la façon dont la parole de Dieu l'explique ici, tu es mieux de te débarrasser de ton argent. Le coût, c'est que si tu ne le fais pas, tu vas peut-être avoir un problème avec la vie éternelle. Cinquièmement, le disciple est totalement dépendant de Dieu. Le disciple qui a tout abandonné pour suivre Jésus doit totalement dépendre de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Hein? Oui? Bon. Et il veut qu'on dépende totalement de lui. Et puisqu'il ne compte plus sur les richesses du monde, puisque le disciple ne compte plus sur les richesses du monde, il doit s'attendre à ce que Dieu lui donne. Dieu pourvoit. Dieu va pourvoir. Et si Dieu donne à manger aux oiseaux, bien, à combien plus forte raison va-t-il donner à manger à sa création humaine, une des plus belles créations, à ses disciples qui valent plus que les oiseaux? Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter dans Luc 12, 22. Hein? Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Dieu sait ce qu'on a de besoin et il nous invite à chercher le royaume de Dieu. Hein? Toutes ces richesses-là, c'est des païens qui cherchent ça, hein, dans Luc 12, 30. Et au verset 31 du chapitre 12 de Luc, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cette dépendance est autant matérielle que spirituelle. Regardez bien ce qui se passe dans Luc 10, versets 40 à 42. Je ne le lirai pas au complet. Mais là, Jésus est en chemin pour Jérusalem, comme je vous le dis. Et là, il voit Marthe à court partout. Elle est occupée. Elle est occupée, puis sa sœur Marie, elle, est assise à côté de Jésus, puis elle l'écoute. Et là, il est choqué. Marthe est choquée. Et là, Seigneur Jésus, Marthe, pas de petit excite comme ça. Marie a choisi la bonne part. Et ça, cette part-là ne lui sera point ôtée. Cette scène-là nous donne encore un enseignement pratique sur les priorités que doit avoir un disciple. Il doit en premier écouter Jésus. Et là, attends-toi pas un message, un téléphone. C'est dans ta Bible, écouter sa parole plutôt que de chercher à faire des choses pour lui. Ça, c'est de la religion. Et notre ancienne religion nous a habitués à ça. Pourquoi? Parce qu'on se ramassait des... Comment on appelle ça? Des indulgences, c'est ça?
Hein?
Puis là, tu passais tant d'années de moins au purgatoire. Donc, le disciple qui va se nourrir de la parole de Dieu va pouvoir ensuite le servir selon cette bonne parole. Ça nous invite, en tant que disciple, à toujours rechercher à être à l'écoute de Dieu. Quand vous lisez votre Bible, quand je lis ma Bible, Je dis, Dieu, parle-moi. Puis il parle. Cherchez à ce que cette parole-là peut nous apporter avant de chercher à lui apporter quelque chose. Hein? Luc 11, 28. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Un vrai disciple, c'est ça. Il garde la parole de Dieu parce qu'elle est pour lui une bénédiction. Donc, frères et sœurs, notre dépendance doit aussi se manifester en termes de dépendance spirituelle. Conclusion, le sixième point, c'est que le disciple attend le retour de Jésus-Christ. On doit être vigilant sur nos gardes parce que Jésus l'a promis, il va revenir. Et ce retour, ce qu'on appelle la parousie, doit être l'objet d'une ferme espérance et d'une attente sérieuse. Le Seigneur nous encourage à être vigilants. On ne sait pas quand le Maître va revenir. Hein? Et en conséquence, on doit être prêt pour le retour à tout instant. Je ne sais pas tout à l'heure si vous m'allez déjeuner. Non, mais peu importe l'activité que vous aurez après l'Église, y a-t-il une garantie là-dessus? Luc 12, 40 nous dit ceci, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Jésus va utiliser le déluge, le temps de Lot lors de la destruction de Sodome et Gomorre, et il compare les temps qui le précédaient à ceux qui précéderont sa seconde venue. Tout le monde vivait comme s'il y aurait absolument rien qui serait arrivé. Ça ressemble un peu aujourd'hui. Luc 17, 22 et 23, hein? on nous raconte ça. Des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point et on vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Et là, durant tout ce chapitre-là, durant les versets 24, je dirais, jusqu'à 37, le Seigneur va parler justement de la fin des temps. Il va amener l'exemple de Noé, il va amener l'exemple de Lot. Les disciples, à la fin, vont dire, où ça va se passer, ce Seigneur? Mais nous, sachant cela, on doit rester vigilant et on doit veiller. Parce que tout cela va arriver sûrement et très bientôt. À l'heure, on n'y pense pas parce que le Seigneur le dit, c'est juste Dieu le Père qui le sait. Au verset 40 de Luc 12, « Vous aussi tenez-vous prêts. » Jésus parle à ses disciples. Jésus te parle ce matin. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand j'ai préparé ce message-là, très brièvement, je me suis dit, c'est impossible. Parce que là, je pensais juste le côté chair. Mais si on veut être des vrais disciples du Seigneur Jésus, si on veut le suivre, si on veut rester humble, si on est prêt à être rejeté, si on attend son retour, ça nous prend son aide pour le petit bout de chemin qu'il nous reste à faire. Parce que on ne peut pas le faire autrement. Mais faisons confiance au Seigneur. Parce que s'il enseignait à des disciples qu'on qualifiait même d'ignorants à l'époque, ben c'est parce qu'il savait que par lui, ça se passerait et ça se fait. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Que l'on puisse, Seigneur, la mettre en pratique. Qu'on puisse la méditer. Qu'on puisse être encouragé. Car c'est par toi que tout peut arriver. Au nom de Jésus, on prie. Amen.
Amen. Seigneur, tu nous as scellés de ton esprit, Seigneur, que lui seul puisse nous aider.